my feet, I jam to the sound of the sequence beat. I wave your hands in the air, I wave them like a juice, don't care, like a Ginger Rogers and a Fred Astaire. My main man, a Yogi Bear. I set a hip my jazz and a razz my jazz, and I jam to the disco beat. And if you can move your body like you move your hands, then I'm sure you can move your feet.
Why you be living in a murder zone?
Chase you out of earth.
Et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Effectif réduit ce soir, on va dire c'est les vrais sportifs qui restent, qui restent sur le terrain. On était peut-être les deux seuls blessés la semaine dernière, mais en tout cas, on est les deux à être là. Amaury est avec moi, salut Amaury.
Salut Faustin, comment tu vas déjà? Tiens, on va te, poser la question dans ce sens-là.
Ça va bien, mon genou, et je teste ce soir après l'entraînement, voir s'il est réparé, mais ça devrait aller. Toi, ça gagne ce week-end?
Non, ça n'a pas gagné ce week-end, défaite contre Carquefou de 6 buts et une équipe de Carquefou qui a très très bien joué face à nous.
Très fort,
des jeunes qui courent beaucoup et qui nous ont mis un peu dans le mal. Et moi en plus, j'avais une course le matin même, juste avant le matin du match, un petit trail dont je me préparais depuis 2 mois. Mais là, j'ai plus performé qu'au match 34e sur 1160.
Oh, c'est fort, ça.
Donc,
combien de temps le dit-il?
46 minutes avec beaucoup de marche, beaucoup de dénivelé. Mmh. C'était plutôt cool, j'étais plutôt content.
Eh ben, bravo. on passe évidemment un bonjour à Cédric, Mathéo et Florian. Qui ne peuvent pas être là ce soir pour des raisons diverses et variées. Au programme ce soir, l'actualité locale avec toujours le basket, la qualification des Ducs en demi-finale des playoffs de Ligue Magnus. On parlera ensuite de Ligue des Champions. Avant ça, il y aura Amaury qui nous fera une chronique sur l'accident d'avion d'hélicoptère, pardon, qui fête, c'est un mauvais mot, je pense. C'est 10 ans, bref. Et ensuite, on enchaînera sur les actualités locales et on parlera un peu de basketball et de NBA surtout, parce que là, on va parler toujours de basketball, mais cette fois dans le Maine-et-Loire, et on va commencer par l'UFAB qui a perdu 90 à 70 contre Charnay. Mais malgré ça, les résultats des autres équipes assurent le top 8 à Angers, synonyme d'accession au play-off. Actuellement 7e, l'équipe n'est qu'à une victoire du top 5, si évidemment les équipes devant perdent. Le prochain match est samedi contre Landerneau, c'est un match complètement prenable pour les Angevines qui peuvent donc rêver plus haut. Pour le AB, une nouvelle victoire 80-77 à Metz. Les Angevins s'en sortent grâce à un très bon deuxième quart-temps et une fin de match bien gérée. Cette deuxième phase commence très bien avec 2 victoires d'affilée donc, et joue ce soir contre Besançon pour aller en chercher une troisième. Du côté de Chablais, c'est d'abord un match nul qui s'est fait contre Saragosse.
Dommage, le match voilà. Nul.
83-83, c'est rare de voir des matchs nuls au basket, mais là c'est un format qui le permet parce qu'il y aura un match retour qui est donc demain et la victoire est impérative pour les Choletais parce que c'était un match pour le match aller donc des quarts de finale de Coupe d'Europe et une victoire les ferait accéder au prochain tour, aux demi-finales donc. Ils ont ensuite enchaîné sur une nouvelle victoire, 93-67 contre Dijon en Betclic Elite, ce qui leur permet de prendre une victoire d'avance sur Paris qui a perdu contre Monaco, qui prend donc une victoire d'avance sur l'équipe des Mauges. On va enchaîner avec une autre équipe qui s'est qualifiée, elle, c'est officiel pour les demi-finales, c'est les Ducs d'Angers qui, au terme d'un match 6 très serré, qui emmena les deux équipes en prolongation et qui s'est conclu sur une victoire des Ducs 2-1 contre
Chamonix.
Contre Chamonix, merci. Voilà, et les Ducs affronteront donc Bordeaux en demi-finale. Bordeaux tombeur de Marseille en 6 matchs également. De l'autre côté du tableau, Grenoble s'est débarrassé de Nice en 4 matchs. C'est un sweep donc. Et on ne sait pas encore qui Damien ou Drouin sortira vainqueur de leur série. Il va falloir attendre demain soir avec un match 7 décisif du côté du SCO Handball. Qu'est-ce qui s'est passé à Maury?
Eh bien, c'était un match face à Cournon pour le SCO Handball ce week-end. Un début de match serré, 5-5 après 8 minutes de jeu. Et là, sont arrivés pas mal d'erreurs défensives des Angevins. Mais un petit éclat qui finalement est ramené à la pause à 18-15. Tout est encore jouable. Une deuxième mi-temps, pareil. Le SCO prend un éclat, puis revient en fin de match. Mais malheureusement, ça ne joue à pas grand-chose et on s'incline 34-33. Très frustrant. Après surtout le match nul de la semaine dernière où on aurait aussi pu aller gagner. Et ces deux défaites de très peu de buts face au top du classement les deux week-ends précédents. Donc toujours pas de victoire. En plus, pas de points ce week-end face à une équipe qui était prenable. Ça devient très compliqué d'y croire encore, même si les performances sont bien mieux qu'en première partie de saison. C'est très compliqué pour le SCO.
Ouais, ça, je pense le mot qui ressort le plus, c'est frustrant. Avec ces défaites à vraiment pas grand-chose. Une équipe qui a ça de gagner. Mais du coup, ça, plus ça, bah, ça fait toujours pas de victoire.
Il manque toujours cette petite chose pour aller gagner le match. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on voit l'évolution dans le jeu. On voit, c'est bien mieux, ce que propose le SCO. Alors, j'ai pas encore pu aller voir de match cette année. Ça tombe toujours en même temps que mes entraînements, ou mes matchs, les rares fois où c'est le samedi, bah, je joue le samedi aussi. mais franchement, faut peut-être que j'y aille pour qu'il y ait une victoire, victoire du SCO. Je vais essayer de regarder ça les prochains week-ends.
Génération Sport se déplace. Voir le SCO Hand pour les faire gagner. On espère
mais,
être un bonheur.
Mais voilà, très frustrant et on espère que ça va arriver très vite.
Ouais. Moi, ça me fait un peu penser à la physionomie du début de saison de l'EAB, qui pareil était dans la fin du classement, ils étaient pas derniers non plus, mais c'était des matchs qui jouaient à pas grand chose. Ce que Matteo Valton nous avait dit, c'était toujours la fin de match qui pêchait un peu, où ils avaient du mal à mettre dedans, et ils avaient pas à faire basculer le match en leur faveur. C'est exactement ce que vivent le SCO Hand en ce moment.
Mais le problème, c'est que les équipes juste devant, elles ont gagné des matchs ces derniers temps. Et donc là, le SCO a 2 points en 19 matchs. Et devant eux, la 14e place, qui est aussi synonyme de relégation, ils sont à 9 points, donc 7 points d'avance. Ouais, ouais, ouais. Et 10 points pour le premier qui est non relégable. Donc il va falloir en gagner des matchs et pas qu'un pour espérer sortir.
Ouais, pour espérer pouvoir sortir de cette zone de non-relégation sportive, on va dire, parce que administrativement,
on en reparlera plus tard. Voilà, je pense qu'on aura plus de nouvelles en juin.
Voilà, même si, de ce que tu nous dis depuis plusieurs émissions, ça risque de le faire pour le SCO. Ouais, on l'espère en tout cas. Un autre SCO qui a perdu ce week-end, c'est le SCO Foot. Une défaite 2-0 contre Brest, à Brest, une équipe angevine une fois de plus, largement dominée. Avec des gros problèmes en défense. Est-ce que toi, t'as pu voir des bouts de match?
J'ai vu des bouts de match. Et ouais, tu parles de problèmes en défense, et j'ai aussi vu des problèmes au milieu. Qui, en fait, on a mal défendu. Brest aurait pu marquer plus de buts, ça aurait pu finir sur le même score que contre Toulouse, clairement. Ouais. Parce que si Yaya Fofana est peut-être pas exempt de tout reproche sur le deuxième but où il dégage mal son ballon, il en a sauvé à côté. Hein. Je pense à une claquette en début de match sur une tête d'Ayork. Il y a plusieurs situations où Yaya Fofana fait des beaux arrêts, malgré cette petite erreur sur le deuxième but. Mais il y a aussi eu des problèmes dans, j'ai envie de dire, l'animation offensive, mais qui vient des milieux. En fait, c'est les attaquants, on n'a pas réussi à les trouver. Alors, est-ce que c'est véritablement de la faute des attaquants ou justement le milieu qui est fait, ça a été surpassé complètement par celui de Brest? Et en fait, si on compare au match des début janvier contre Brest ou à domicile,
le SCO gagne
2-0. C'est pas du tout le même match. Brest n'était pas sur une super série depuis sa défaite en Ligue des Champions face à Paris. Et en comptant la défaite en Ligue des Champions face à Paris, là ils se relancent très bien. Ils ont fait un très bon match les Brestois. Ça, y a rien à dire. Maintenant, la série devient bien moche quand même pour les Angevins, avec la tête de la fatigue avec les mois de janvier et de février, et un petit peu plus de matchs que d'habitude pour le SCO, qui a dû jouer deux matchs par semaine plusieurs fois. Ouais. Maintenant, il y a eu des retours de blessures qui ont été là aussi. Esteban Le Poll a pu rejouer ce week-end. Il y a eu une semaine avant sans deuxième match, 2 jours de repos sans entraînement aussi pour les joueurs après Toulouse, qui avait été accordé par Aïssante Dujeu. Donc, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. En tout cas, il va falloir très vite se relancer. Mais se relancer face à Monaco et Paris pour les deux prochains matchs, ça risque de pas être simple.
Voilà, ça, le calendrier est pas simple. Et derrière, ça risque de pousser. Parce que du coup, le SCO est à 6 points du premier barragiste, Le Havre. Et à 7 seulement du premier relégable, Saint-Etienne. Parce que, j'ai envie de dire, heureusement, les deux équipes sont affrontées ce week-end et ont fait match nul. Donc ça ne rapproche pas le SCO.
Plutôt un bon résultat pour le SCO.
Voilà, ça ne rapproche pas le SCO d'une zone potentiellement relégable. Et après, derrière, Nantes n'est qu'à 3 points. Reims a seulement 5 points. Mais et au-dessus, ça commence, mine de rien, un peu à se détacher, avec Auxerre de place au-dessus à 4 points de plus que le SCO. Donc ouais, ça va falloir trouver des victoires dans les peu de matchs qui restent, dans les peu de matchs intéressant pour le SCO, j'ai envie de dire, qui reste, si on peut cibler. Moi, j'ai envie de dire que Monaco peut être un match prenable, parce qu'il y a eu la victoire à l'aller. C'est souvent
Monaco est pas en grande forme non plus actuellement. Voilà. Il concède des points. Et moi, quand je reviens, je regarde le classement, une équipe que tu n'as pas citée, je crois, peut-être aussi, c'est Reims, qui est juste devant la zone de relégation, juste devant le barragiste. Et Reims, qui, à part le match face au SCO en Coupe de France, reste encore sur une série très négative. Ouais. Là, je regarde 2-0 contre Auxerre ce week-end. Ils ont perdu 3-0 contre Monaco la semaine d'avant. Et leur match à suivre, c'est Brest. Donc Brest qui a réalisé un bon match week-end. C'est Marseille, qui n'a pas été flamboyant ce week-end, mais ça reste du haut de tableau. Derrière, il y a Strasbourg, il y a Lens, il y a Toulouse. Et finalement, il y a Nice et Lille. Ils auront deux matchs en fin de championnat contre Montpellier et Saint-Etienne pour peut-être réussir à prendre des points. Mais le calendrier de Reims est compliqué aussi. C'est aussi bon pour le SCO de se dire qu'il n'y a pas que eux quand un calendrier est compliqué, un équipe de bas de tableau.
Ouais, c'est clair. Et puis après, on peut essayer de cibler des matchs, j'ai envie de dire, dans ce qui reste pour le SCO. Il reste combien? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs. 9, autant pour moi. Mais du coup, j'ai envie de dire que Nantes, là, le déplacement à la Beaujoire, serait une victoire quasiment impérative au vu du classement, parce que Nantes est clairement un concurrent direct. Et au vu des matchs précédents, le SCO peut se retrouver au moment de jouer Nantes à une place d'être barragiste ou deux places.
La réception de Montpellier aussi.
Et aussi, voilà, qui vient juste avant.
De toute façon, je pense que deux victoires, le SCO est maintenu.
Ouais.
Sur la fin de championnat. Franchement, les équipes derrière vont pas aller chercher 12 points comme ça.
C'est pas difficile.
Deux victoires, je pense que le SCO est maintenu. Une victoire, un nul, ça peut le faire. Moins, ça risque d'être. Ça dépendra si feront les autres derrière, mais ça risque d'être compliqué. Il faudra aller chercher deux victoires. Si on peut commencer au moins à aller prendre un point contre l'un des gros, Paris, Rennes, Monaco, si on au moins prendre un point sur ces trois matchs
pour éviter
en plus la série noire, parce que là on est sur le match nul contre Saint-Etienne qui est très frustrant malgré le fait qu'on égalise à la dernière minute, mais on menait 2-0. Derrière, l'élimination en Coupe de France. Après, c'est Toulouse, si on perd 4-0. Là encore dominé énormément. La série est vraiment pas belle pour le SCO.
Ouais.
Je m'étais noté sur les 6 matchs sur un mois, là, depuis le 9 février, je crois. C'est 4 défaites, 1 nul contre Saint-Etienne, donc un nul qui presque comme une défaite contre Saint-Etienne. Et seulement une victoire, c'était contre Reims en championnat, 1-0, face à un Reims qui est en grande difficulté aussi. Donc on n'est vraiment pas sur une belle série, malgré le beau début d'année en janvier-février.
Ouais, c'est heureusement qu'il y a eu ce beau début d'année qui a permis au SCO d'avoir un match là de points, j'ai envie de dire, assez confortable pour aborder cette fin de saison. Mais là, ouais, il va falloir relever la tête, sortir la tête de l'eau et repartir du bon pied pour bien finir cette saison. Voilà, t'as rien d'autre à ajouter pour les actualités locales ?
Pas spécialement aux autres choses actuelles.
Et ben, on va pouvoir passer à ta chronique alors.
Et ben, on est parti, on est sur une chronique pas forcément la plus joyeuse, parce que il y a 10 ans aujourd'hui, que la nouvelle est tombée, brutale, insupportable, le 9 mars 2015. 3 vies se sont brisées dans un fracas d'hélicoptère quelque part au nord-ouest de l'Argentine. 3 noms qui en un instant sont passés du présent au passé. 3 visages figés à jamais, pourtant encore si vivants dans nos souvenirs. Ce jour-là, nous avons perdu bien plus que des champions. Nous avons perdu des âmes, des destins, des éclats de lumière dans l'histoire du sport français. Nous avons perdu une partie de ces récits qui nous inspirent, de ces parcours qui nous font rêver, de ces victoires qui nous font vibrer. 10 ans, et pourtant la stupeur est intacte. Je me souviens parfaitement de cette journée, j'avais 12 ans. L'âge où on commence à s'attacher à des figures, à des héros, à comprendre la portée des exploits sportifs. L'âge où l'on croit encore naïvement que les héros ne tombent jamais. Je me souviens de Camille Muffat, sa grâce dans l'eau, son regard déterminé, son humilité après la victoire aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Elle était entrée dans la légende en remportant l'or sur 400 mètres nage libre. C'est une nageuse silencieuse, réservée, mais d'une force incroyable. Elle ne cherchait pas les projecteurs, elle laissait ses performances parler pour elle. À l'époque, je ne mesurais peut-être pas tout ce que cela représentait, mais je me souviens de son sourire, je me souviens de l'éclat de son nom dans la lumière des bassins. Et puis, il y a Florence Artaud. Elle, c'est mon père qui m'en parlait avec admiration. Il me racontait ses exploits, cette femme libre et indomptable qui avait plié les océans sous sa voile. La petite fiancée de l'Atlantique. C'est comme ça qu'on l'appelait. Un mythe vivant, une aventurière née, une pionnière qui, dans un monde d'hommes, avait prouvé que le vent et les vagues n'avaient pas de genre. Elle avait une audace rare, une manière de braver les éléments, de défier la mer comme si elle était née pour ça. J'aimais cette idée, une femme qui, au lieu de suivre toutes les routes tracées, traçait les siennes sur l'eau. Et puis, il y avait Alexis Vastine, un boxeur au destin cruel, au regard brûlant d'une rage contenue. On se souvient de ses larmes à Pékin en 2008, de cette médaille de bronze qui aurait dû être en or, de cette injustice qui lui a brisé le cœur. Un combattant qui n'a jamais baissé les bras, qui voulait sa revanche, qui avait encore tant à donner. Mais la vie en a décidé autrement. 10 ans et toujours cette douleur. Parce que ces noms ne sont pas juste des noms, ils sont des visages, des souvenirs, des émotions. Ils sont tous ces moments de grâce que nous avons vécu devant nos écrans, ces frissons ressentis en les voyant accomplir l'impossible. Ils sont ces inspirations qui nous ont fait croire que tout était possible, que le talent, le travail et la passion pouvaient soulever des montagnes. On dit souvent que les grands champions ne meurent jamais vraiment, parce qu'ils laissent derrière eux une trace, une étincelle dans l'histoire, un souffle dans la mémoire collective. Camille, Florence, Alexis, vous faites partie de ceux qui ont marqué nos esprits, nos cœurs. Ce soir, je voulais prendre ce temps, un instant suspendu, un moment pour que 10 ans après, on ne vous oublie pas. Pour que vos noms continuent de résonner dans la mémoire du sport français, dans la mémoire de ceux qui, comme moi, ont grandi en vous admirant. 10 ans et une pensée qui ne s'éteindra jamais.
Merci beaucoup à Amaury pour cette chronique en hommage à ces 3 sportifs disparus il y a 10 ans.
10 ans et 2 jours exactement, c'était le 9 mars 2015.
Voilà, on va enchaîner maintenant avec la pause musicale. avant de se retrouver avec les actualités internationales. Et on va s'écouter du SCH de son dernier album, son titre 2000.
Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mot. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smicard. Amis pris pour que nous le restions. Pas d'ingestion, des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. On t'a faut 3, 8, on dit loup, on pack. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis ton aide, on s'en tape. Je vois mes cicatrices comme des forces, pas comme un handicap. Et je bois ce whisky sans glace. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Ça descend, je pense à vrai. J'ai la libé avant le mobile. J'ai connu le franc, j'ai connu le faux. Le taron dans la cadette 16. Dans un futal en velours. À siphonner des poids lourds. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des Jitaf. Le crissement du VR6 sur le poste avec un prix classe. La crâne bien défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante. Quelques poubelles vont cramer. Mon reflet dans une fac de pisse. Je fais des sourires au camé. Je rêve de quartier, bois, je rêve de palais. Comme les damnés. Les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mot. Les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mot. Les années 2000, je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile.
Et voilà, c'était SCH avec son son 2000. On va donc passer au volet international et on va démarrer par la Ligue 1, Amaury.
Bon, pour la Ligue des Champions. La Ligue 1, je m'étais dit que si on avait le temps, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à dire, on a perdu des soldats entre temps, donc peut-être qu'on aura le temps, mais voilà, on va commencer par la Ligue des Champions, on reviendra à la Ligue 1 un peu plus tard. Et donc ce soir, on a parlé rapidement en introduction, le PSG reçoit Liverpool au Parc pour tenter de renverser la situation après un match aller frustrant, perdu 1-0 malgré une énorme prestation. Les Parisiens devront être plus réalistes pour espérer viser l'écart. Et demain, c'est Lille qui tentera de poursuivre l'aventure après son nul 1-1 à l'aller. Un match ouvert, mais tout sauf gagné pour les Dogs. On prend les avis autour de la table, c'est ce que j'avais écrit. On va prendre plutôt ton avis, Faustin, parce que on n'est que deux. Paris peut-il le faire et Lille a-t-il les armes? On va commencer par le PSG, vu que ça joue ce soir.
Bah, le PSG, moi je sais que c'est ce que j'ai dit dès la première mi-temps, j'ai envie de dire, du match aller que j'avais vu. J'avais vraiment l'impression que Liverpool faisait un peu exprès d'être dominé, se laissait dominer, ne cherchait pas à avoir la balle et à exécuter son plan de jeu à la perfection. Ils ont eu quand même un peu de chance de tomber sur un Alisson qui sort le meilleur match de sa vie, hein, il le dit lui-même, et de planter sur leur seule occasion. C'est certes chanceux, mais ça a payé. Et à mon avis, ils vont mettre du jus dans ce match retour. Mohamed Salah va peut-être retrouver du niveau parce que Autant Liverpool n'a pas cherché à avoir la balle, autant Mohamed Salah n'a pas été bon tout court. C'était pas fait exprès, ça, à mon avis, tout de même. Mais ouais, au match retour, je vois une large domination de Liverpool qui écrase le PSG.
On en a parlé rapidement avant le début de l'émission. J'ai un côté d'accord avec toi sur le fait que oui, Liverpool avait un plan de jeu en laissant le ballon à Paris, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, le match qu'ils ont fait, que deux tirs. Ils n'ont pas été dangereux une seule fois en contre, excepté le but, évidemment, excepté le but. Je pense que Liverpool a quand même été sacrément mauvais par rapport à ce qu'il voulait à l'aller. Et il voulait pouvoir piquer en contre, mais bien plus d'une fois, avoir beaucoup plus d'occasions. Ils n'ont pas réussi à les avoir. Aujourd'hui, je pense que Liverpool, ils ne vont pas aborder le match de la même manière. Parce que déjà, c'est Anfield, mais peu importe, je pense que même si ça avait été à Anfield comme ça au match aller, ils ne seraient pas venus jouer comme ça parce que ils savent bien que Paris, ils vont pas ne pas marquer sur deux matchs de suite en jouant comme ça. Après, on a aussi revu un Paris qui, comme en début de saison en Ligue des Champions, est capable de dominer. C'est pas le premier match où Paris domine autant sans finir par marquer.
Il prend un but en contre à la fin du match.
Voilà, j'ai plus les équipes en tête en début de saison pour Paris, mais on a vu.
C'était, je pense, le match marquant.
Exactement. On a vu pas mal de matchs de Paris où en début de saison, on a parlé pas mal de fois ensemble. Paris domine. Paris a 25 tirs dans le match, mais Paris ne marque pas. Ça a été le cas au match aller. Je pense pas que ce sera le cas au match retour quand on voit la forme des Parisiens, quand on voit la forme des buteurs parisiens, notamment de Ousmane Dembélé depuis deux mois. Maintenant, est-ce que Liverpool jouera pareil? Non. Est-ce que Paris pourra reproduire une performance du niveau de la semaine dernière malgré qu'ils aient pas marqué? J'en doute aussi. Donc je m'attends à un match équilibré.
En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les deux équipes ont bien exécuté leur plan de jeu. Mais la semaine dernière, on avait un mauvais Liverpool, mais qui exécutait quand même son plan de jeu, et ça a fonctionné, et un bon Paris qui a juste manqué de réalisme. Et cette semaine, si on a un peu les choses inverses, avec un changement de plan de jeu de Liverpool qui va plus avoir tendance à mettre le pied sur le ballon, à vouloir dominer le match, et s'ils font ça bien, et que Paris, au contraire, se fait peur, a peur tout simplement d'être attaqué, là on peut très très vite tomber sur une déflagration rouge qui va tout simplement faire que Paris ne se qualifiera pas pour les quarts de finale, quoi, pour les demi-finales.
Ta première phrase, j'avais envie de l'encadrer. Franchement, t'as très bien résumé la chose sur le plan de jeu et le fait de bien réussir à jouer son plan de jeu. T'as très bien résumé la chose, mais c'est sûr que de manière Liverpool jouera pas la même manière. Non. Liverpool va vouloir marquer d'entrée. Liverpool va vouloir mettre un coup au moral du PSG parce que alors il y a beaucoup de joueurs qui ont changé. Il y a pas tant que ça des rescapés de toutes les désillusions parisiennes l'année passée. On a Marquinhos. On a
Kimpembe.
Kimpembe, voilà. Kimpembe, il met la musique.
Hakimi, peut-être.
Ouais, encore, c'est pas les plus grosses désillusions, j'ai envie de dire. Mais donc, on n'a pas franchement beaucoup de rescapés de cette époque parisienne. En fait, c'est presque 10 ans aujourd'hui, certaines de ces désillusions. Mais quand même, je pense que ça marque dans l'esprit d'un club de savoir que cette équipe-là, en Ligue des Champions, elle a toujours eu ça.
Ouais, c'est vrai.
Donc, Liverpool, s'ils arrivent à marquer d'entrée, ça va pouvoir faire très mal à Paris. Maintenant, à voir comment Paris va lui aborder son match. Est-ce que Paris va être aussi offensif qu'au match aller?
Je pense que c'est ce qu'ils vont vouloir, mais ils vont pas pouvoir le faire. Parce que Liverpool va être meilleur. Parce que Liverpool va vouloir leur prendre le ballon, il va pas laisser jouer Paris comme ils l'ont fait au match aller.
Après, ils savent que Paris peut être dangereux en contre.
C'est vrai, mais Liverpool peut être dangereux partout. Oui. Donc,
on a quand même, parce que faut rappeler que au match aller, le match de Liverpool, c'est un match de leader de première ligue incontesté. Complètement incontesté.
En Ligue des Champions aussi, leader.
Et leader en Ligue des Champions sur la phase aller, avec égalité avec le Barça, non?
Un point d'avance.
Mais bon, voilà, c'est une équipe qui a roulé sur tout le monde en première partie de saison, qui, c'est vrai, il y a eu une petite période de moins bien, a été éliminée en coupe face à une équipe de 3ème division.
D3, je crois. Ouais. Non, le dernier de D2, c'est ça.
Voilà, je sais pas exactement, mais en tout cas une équipe contre qui Liverpool aurait dû gagner facilement. Ils ont, je crois, des petits matchs nuls ou en tout cas des résultats moins frappants qu'en début de saison en Première Ligue.
Il me semble qu'il y a eu une victoire comme contre Arsenal récemment quand même pour Liverpool. Enfin, il y a eu quand même C'est Liverpool
si
peut-être.
Si on regarde, donc Liverpool a battu Newcastle, a battu Manchester City 2-0. Ouais, City, mais juste avant, ils ont fait un match nul contre Aston Villa. Et ils avaient fait un match nul aussi contre Everton mi-février. Donc voilà, et une défaite contre Plymouth, où je prononcerai certainement très mal, mais en FA Cup. Donc voilà, c'est pas le Liverpool du début de saison, en tout cas sur les résultats. Ça reste un Liverpool qui ne perd quasiment jamais, hein, parce que.
Et puis souvent quand même, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais la première ligue est quand même un championnat d'un niveau supérieur à la Ligue 1.
Complètement.
On soit d'accord. Et le premier de première ligue est censé être quand même meilleur que le premier de Ligue 1.
Sur le premier avec Paris, c'est là où je peux avoir un.
Ouais, ça, voilà. Paris,
par contre, le deuxième de première ligue est bien meilleur que le deuxième de Ligue 1. Bien que j'adore le deuxième de Ligue 1, faut savoir être ouais. Objectif quand même.
Mais ouais, du coup, ça m'a quand même gêné de me dire que Liverpool, le premier du meilleur championnat du monde, se fait à ce point dominer dans un match contre Paris. C'est ça qui m'a poussé surtout à dire cette théorie, j'aimais dire, comme quoi Liverpool a fait exprès d'être dominé, n'a pas voulu être autant dominé non plus, risquer gros, mais à effectuer son plan de jeu, à vouloir être dominé, à ne pas dominer en tout cas, peut-être pas vouloir être dominé, mais en tout cas à ne pas dominer le match
et à rester le ballon.
Voilà, ça a laissé le ballon, jouer un 0-0 ou justement un 0 sur un.
Franchement, au vu du match, il y a 0-0, on se dit Paris a pas eu de réussite.
Bah ouais.
Mais là, franchement, le hold-up qu'on a vu.
Là, c'est clair.
On a vu des hold-up hein, dans l'histoire du foot, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Mais alors celui-ci, franchement.
Ouais, il est fort.
Oh, il est classé.
En cage anglaise.
Il est classé très, très, très haut quand même parce que deux tirs à 27 ou 28.
Ouais, un tir cadré.
Un tir cadré à la 80.
Du remplaçant qui a 20 ans qui rentre comme ça, le petit Elliot.
Franchement, on est parmi les plus gros hold-up qu'on a vu. Ouais. Après, Donnarumma, certains lui tombent dessus. L'arrêt, il est pas si simple que ça à faire. Il peut
ouais,
peut-être.
Ça lui arrive sur la main. Ouais,
il peut faire mieux. En fait, l'erreur qu'il fait, il fait un petit pas de côté en trop, je pense.
Ouais,
mais en même temps, il a rien eu à faire du match.
Bah, oui,
on est à la 87e minute par là. c'est compliqué hein, quand t'es gardien et que t'as rien eu à faire du match. Il a même pas eu le temps à toucher le ballon au pied de ça parce que Paris était dans l'autre moitié de terrain. Donc voilà. Mais il y aura besoin ce soir, par exemple, d'un grand Donnarumma.
Ouais, sûrement, qui va être plus sollicité. C'est même sûr.
On a besoin pour Paris. Si Paris même veut aller loin sans parler de ce soir, besoin d'un Donnarumma qui montre le gardien qu'il est en Ligue des Champions parce que sur les dernières années, il a réussi à montrer qu'il était un bon gardien en Ligue 1, qu'il a fait des bonnes performances, mais il n'y a pas une performance qu'on retient en Ligue des Champions marquante où il a fait gagner Paris. Il y a plus de situations où on se dit, ah, il a peut-être fait perdre Paris plutôt que l'inverse. Et c'est dommage pour un gardien de cette trempe-là, quand même, parce que Donnarumma reste un grand gardien.
Bah oui, et puis le gardien numéro 1 d'un top 5 monde, des équipes. Donc, on attend mieux.
Voilà pour Paris, on a fait à peu près le tour. On va passer à l'autre équipe française encore en liste. C'est Lille, les Dogs qui sont allés chercher un match nul du côté du Signal Iduna Park, c'est ça le stade de
Dortmund. J'en ai aucune idée. Je
crois que, en tout cas, avec le mur jaune et la belle ambiance à Dortmund, mené 1-0, puis une égalisation de Lille. Match retour à Lille. Lille a-t-il les armes pour toi pour aller gagner ce match et pour se qualifier face à ce Dortmund?
Bah, au vu du match aller, si on se base là-dessus, oui, clairement, Lille n'a pas été dominé, Lille n'a pas dominé non plus, j'ai envie de dire.
Non.
Voilà, c'était un match relativement équilibré. Il me semble que les deux équipes ne font qu'un seul tir cadré. C'est dommage quand même que Lille. Enfin, c'est pas de chance, j'allais dire, que Adeyemi sorte la plus belle frappe de sa vie, sûrement une frappe la même que Thiago Alcantara là, qui apparemment ne toucherait pas le sol. Parce que sinon, ils auraient pas été tellement inquiétés par Dortmund. Et ouais, à mon avis, Lille peut le faire. Lille a les moyens. Tu vois, c'est une équipe du top 8 du coup la Ligue des Champions. Qui peut prouver qu'elle mérite sa place, qu'elle n'est pas là par hasard. Et à mon avis, ouais, je pense que Lille va le faire.
Je suis en train de regarder, Dortmund a perdu 1-0 ce week-end contre Augsbourg, sans faire tourner pour autant. J'ai regardé la composition, c'est en tout cas le quatuor d'attaque et le milieu étaient les mêmes. J'ai pas eu le temps de regarder la défense, mais donc sans faire tourner, Dortmund n'a pas gagné contre Wolfsburg ce week-end et Dortmund est seulement dixième de Bundesliga. Ouais. Donc on n'est pas sur le Dortmund du siècle. Tu l'as très bien dit, match aller plutôt équilibré. Je pense que Lille a pas fait son plus grand match de la saison.
Non plus.
Dortmund certainement non plus. Mais avec un Lille qui joue comme il est capable de jouer en Ligue 1 depuis le début de saison et en Ligue des Champions, ça, on l'a vu faire des performances quand même assez remarquables. Hein.
Le Real Madrid et l'Atlético.
Voilà, exactement. Les deux équipes de Madrid coup sur coup. Il y a moyen clairement pour Lille d'aller gagner ce match. Et moi, je mettrais bien une petite pièce. Bon, je vais pas les parier, mais c'est l'expression de le dire. Je mettrais bien une petite pièce sur Lille sur ce match-là. Je les vois. Pour moi, je les vois favoris face à Dortmund.
Ouais, je suis d'accord. Surtout que quand tu te déplaces à Dortmund, c'est pas simple. C'est une grosse ambiance Dortmund, donc tu le sens que t'es à l'extérieur. Et ils ont pas tremblé face à ça, parce que Lille, c'est pas non plus une équipe qui a l'habitude dans les temps récents d'aller jouer des quarts de finale, des demi-finales de Ligue des Champions. Donc c'est déjà, rien qu'aller chercher un match nul à Dortmund, c'est fort de leur part. Et ça annonce du bon pour ce match retour.
C'est tout début d'année 2010, j'imagine, avec l'époque où il y a eu Eden Hazard, peut-être.
Dernier quart de finale de Liverpool, ouais. de Lille.
J'imagine que ça ouais, doit
j'ai,
être.
J'ai pas cherché la stat avant l'émission, j'avoue. Je l'ai pas non plus en tête. Mais bon, je ne suivais sûrement pas le foot encore à cette époque.
Non, ces années-là, ils finissent deux fois dernier de groupe. Je viens de regarder et oula. J'ai regardé, ils ont souvent fini dernier de groupe.
C'est pas tellement étonnant, mais parce que bon, bref. Mais ouais, en tout cas, en plus, voilà, match à 18h45. On verra bien.
Ouais. Ah, c'est à 18. Bah ouais. C'est parfait. Je pourrais le regarder avant l'entraînement. Tu m'apprends une bonne nouvelle là.
Voilà, demain c'est... 18h45. Rendez-vous sur Canal+, j'imagine.
Exactement.
Pour voir Lille se qualifier en demi-finale. Et il me semble que Lille du coup affrontera sûrement Barcelone qui est actuellement en train
Exactement.
De se qualifier.
Exactement. Ça, tu prends un grand plaisir à le dire. Le sourire est présent. On fait un tout petit mot sur les autres matchs ouais. Avant d'enchaîner sur l'activité internationale. Bayern Leverkusen, Bayern de Munich. Le match allait 3-0 pour le Bayern. Duel entre équipes allemandes. Plus forcément trop de suspense pour ce match retour. On sait que Leverkusen est capable d'exploits.
Ouais.
Mettre 3-0 au Bayern, ça va être compliqué, j'imagine.
Ouais, même si
voir plus.
Même si le Bayern joue à domicile, c'est pas l'équipe qu'on avait l'année dernière qui ne perdait pas un match, hein, concrètement. C'est littéralement ça. Et là, prendre 3-0 au match aller, revenir d'un 3-0 contre une équipe expérimentée comme le Bayern, ça paraît mission impossible.
Exactement, je pense que là-dessus, on est
ouais,
d'accord.
On sera d'accord.
Inter Feyenoord. Aujourd'hui, tout aussi à 21h, match aller 2-0 pour l'Inter sur la pelouse de Feyenoord. Feyenoord qui a sorti la Juventus, c'est ça, je crois.
Juventus ou l'AC, c'est un des deux de toute façon.
C'était Milan. Milan, c'est la Juventus, c'était Eindhoven. Qui a sorti l'autre Milan et bien qui affronte l'Inter. 2-0 match aller aux Pays-Bas. Maintenant, on est en Italie.
Voilà, a priori, ça devrait pas poser de soucis, je pense, encore une fois, à moins un choc énorme de l'Inter ou alors une masterclass de Feyenoord. On verra bien ce qui se passe. Mais si on suit sur le papier, en tout cas, c'est clairement l'Inter qui part favori.
En tout cas, ce serait bien pour le coefficient UEFA pour la France, parce que les Pays-Bas sont à leur trousse et donc ce serait bien une défaite de... Ouais. Des clubs des Pays-Bas. On parle d'un club des Pays-Bas. Là, je vais même pas te donner la parole. 7-1 pour Arsenal au match aller contre le PSV. Pas grand chose à dire. Arsenal va passer en quart de finale.
Tu prédire combien de buts ils prennent?
Allez, je te laisse. Allez.
Non, je pense qu'ils vont pas prendre autant qu'à l'aller. J'espère pas pour
eux. Ça va faire tourner, j'imagine.
Voilà, ça va faire tourner. C'est finalement un quart de Ligue des Champions, mais un huitième, mais comme un match de coupe contre une des trois, quoi. C'est vraiment un match tranquille et j'annonce un petit 4-0 Liverpool-Arsenal.
4-0 Liverpool pour ce soir, ok.
Ouais.
D'ailleurs, le match est terminé entre Barcelone et Benfica, ouais. Victoire 3-1 de Barcelone qui se qualifie pour les quarts de finale.
J'avais le maillot, évidemment.
On parle des clubs espagnols, bah, y en a deux qui s'affrontent, c'est l'Atlético et le Real, le derby madrilène, hein. Victoire 2-1 à l'aller du Real sur sa pelouse. Aujourd'hui, Wanda Metropolitano, aujourd'hui c'est demain, plutôt à 21h. Un match aller plutôt équilibré. Un match retour qui s'annonce tout autant.
Ouais, tout autant. Toutes leurs rencontres, là, cette saison, ça a été, il me semble, bah, avance de 1, c'est 3-1 partout d'affilée sur tous les derbys de Madrid. Donc, l'Atlético va sûrement jouer un peu plus. Mais en même temps, on a un Real qui est plus en forme en ce moment. Voilà, depuis 2025, concrètement, Mbappé qui plante des buts. Là, Vinicius qui se remet à marquer alors qu'il avait fait une grande pause sans but, on va dire.
Rodrigo au match aller aussi.
Voilà, Rodrigo, exactement. Donc, on a vraiment les stars du Real qui prennent de la place, qui prennent leurs responsabilités. Et ça va pas être une mince affaire là pour l'Atlético. Même s'ils sont pas non plus à négliger, l'Atlético c'est troisième de Liga. Ils viennent par contre de perdre là contre Etafe ce week-end, un match cruel où ils prennent un but à la 88e et un à la 92e.
Ça fait mal pour Griezmann. Et son rêve de gagner un jour le championnat d'Espagne.
Ouais, là, ça va être compliqué, surtout qu'il y a une équipe de Barcelone très très en forme. Ça va être compliqué pour l'Atlético, mais c'est pas infaisable.
Moi, j'avais dit en début de saison, mon rêve, c'est de voir l'Atlético gagner la Ligue des Champions, parce que c'est certainement la dernière année Griezmann en Europe.
Ah, tu crois ?
Bah, en fait, c'est ce que je pensais quand il a pris sa retraite internationale. J'y pense de moins en moins. Finalement, je pense qu'il va rester un petit peu, mais. J'aimerais bien le voir gagner une fois la Ligue des Champions avant sa retraite au moins. Donc si ça peut être cette année, franchement, je suis preneur. Donc moi, je vais aller miser une petite victoire en prolongation. 3-1 du coup pour l'Atlético.
Et ben allez, on verra. Ce sera le scénario parfait, je pense. Ce sera le match à suivre de demain. Il y a pas de débat là-dessus, à mon avis. Ah bah non, il y a déjà Lille Dortmund.
Lille Dortmund, mais c'est un peu plus tôt.
Donc c'est parfait.
Et enfin, le dernier match, je suis pas sûr que ce soit celui qu'on va tous suivre, sur lequel on va tous être branchés, c'est Aston Villa Bruges. Victoire 3-1 à l'aller d'Aston Villa sur la pelouse du club belge. Pareil, ça devrait passer pour les Anglais.
Bah oui, a priori, ils reviennent à domicile, donc ça devrait pas poser de soucis. Je sais pas trop comment ils sont en PL.
Sur deux victoires. Après, avant, c'est un peu irrégulier, mais bon, un match nul contre Liverpool, en même temps, tout à l'heure, j'en parlais.
C'est vrai.
Je pense que face à Bruges, ça doit le faire pour Villa. Après, je suis pas un spécialiste de l'une des deux équipes.
Non, moi non plus. Je sais que j'avais un prof d'anglais qui était complètement fan d'Aston Villa. Ça doit lui faire plaisir.
Je croyais que c'était de Bruges.
Ah non. Un prof d'anglais, ça aurait été étonnant.
On a fait le tour des matchs de Ligue des Champions. On va pouvoir passer à la chronique internationale. On est d'accord, c'est parti. Et on va commencer avec du cyclisme. Et Tadej Pogacar qui continue d'écrire sa légende. Le Slovène a remporté samedi sa troisième victoire sur les mythiques Strade Bianche. Une course exigeante marquée par des chemins blancs et des montées infernales. Pourtant, tout avait failli basculer à 50 km de l'arrivée. Une lourde chute l'a laissé au sol. Mais il est remonté sur son vélo, a fait son retard et ensuite lâché ses adversaires un par un dans une démonstration de force avant de finir les 18 derniers kilomètres en solitaire. Du panache et un message clair envoyé à ses rivaux, notamment à Jonas Vingegaard qui dispute Paris-Nice. Le Slovène sera encore au top de sa forme cette saison. En athlétisme, il y avait les championnats d'Europe et les Français ont plutôt brillé comme ça c'était les championnats d'Europe en salle, comme ils l'avaient fait en extérieur l'année dernière, avec Agathe Guillemot qui s'est imposée sur 1500 mètres avec une facilité impressionnante. Je ne sais pas si tu as pu voir.
J'ai pas vu d'image, non.
Non, et elle déborde à plus de 200 mètres de l'arrivée. On se dit qu'elle va jamais tenir à cette vitesse-là et en fait, elle fait que creuser l'écart. C'est magnifique. Ouais. On a aussi Azedine Abs, j'espère que je prononce bien son nom, qui décroche l'argent derrière l'intouchable Jakob Ingebrigtsen, également sur 1500 mètres. Sur 60 mètres, il y a William Bélossian et juste Kouaou Matei qui montent sur le podium avec l'argent et le bronze. Clara Lieberman en 800 mètres et Marie-Julie Bonin à la perche ramènent aussi de belles médailles de bronze. Une génération montante qui fait plaisir à voir pour l'athlétisme français qui peine à se renouveler, mais on voit quelques petits signes optimistes, au moins sur la scène européenne. À la scène internationale, ça reste plus compliqué.
Voilà, on l'a vu, c'était au JO.
Au JO, ouais, ça a été plus dur. En rugby, quelle démonstration des Bleus. J'espère que tu étais devant le match samedi, Faustin.
J'étais pas devant le match, qu'est-ce que je faisais samedi?
samedi après-midi, 15h15.
J'étais en train de faire quelque chose.
Il n'y avait rien d'autre à faire que regarder le rugby et avoir sur le téléphone l'Estrade Bianchi et Pogacar. En tout cas, le 15 de France a infligé une claque monumentale à l'Irlande, 42-27, avec un match maîtrisé de bout en bout. À la 75e minute, les Bleus menaient même 42-13 avant de lever le pied en toute fin de match. L'attaque tricolore a été flamboyante, le collectif a brillé. Cette victoire place désormais la France en position idéale pour remporter le tournoi. Si les Bleus battent l'Écosse avec le bonus, le titre est assuré. En cas de victoire simple, il faudrait que l'Angleterre remonte le point average, ce qui paraît très compliqué au vu des claques qu'ont infligé les Bleus depuis le début du tournoi. Et attention par contre au scénario catastrophe en cas de défaite, bah, il suffirait que l'Angleterre gagne son match contre les Pays de Galles, donc ce qui semble quand même plutôt déjà chose faite au vu du niveau des Gallois depuis le début du tournoi et depuis même depuis la fin de la Coupe du Monde. Donc attention au piège écossais, mais on est bien parti pour gagner ce tournoi. Par contre, tu as dû le voir, il y a une mauvaise nouvelle sur ce match. C'est la blessure d'Antoine Dupont sur un déblayage de l'Irlandais Tyburn. Le demi-mêlé français a subi une rupture des ligaments croisés, synonyme de fin de saison et même un petit peu plus que ça. Donc coup dur pour le joueur, pour l'équipe de France et pour le Stade toulousain, que cette blessure d'Antoine Dupont. Direction les sports d'hiver, où ce week-end, Johannes Kebleu, Klebo, je sais pas si je prononce très bien, a marqué l'histoire du ski de fond. Le Norvégien a réalisé un exploit jamais vu en remportant les 6 courses du championnat du monde, un sans faute qu'il propulse un peu plus parmi les légendes des sports d'hiver. Sa domination sur toutes les distances du sprint aux courses plus longues montre une polyvalence exceptionnelle et son nom, bien que peu connu, hein, j'en avais pas forcément entendu parler avant, méritait sa place dans l'émission de ce soir. Pour rester sur les pistes de ski, super week-end aussi en biathlon, ça j'imagine que t'as un peu plus suivi.
Un peu plus.
Voilà. Sur l'étape de Novemesto, l'équipe de France a signé 4 victoires en 6 courses. Emilien Jacquelin s'impose sur le sprint, Julia Simon sur la poursuite. Et les relais hommes et femmes font carton plein. Lou Jamono en profite pour se rapprocher dangereusement de Francis Caprus, j'arrive pas. Dans la course au gros globe de cristal, avec seulement 36 points d'écart, à 2 week-ends de la fin. Elle va le faire, Lou Jamono, de revenir sur Prus.
On espère. Hein. Elle est plus forte sur les skis, elle l'est un peu moins sur le tir. C'est vraiment deux biathlètes différentes et à chaque fois ce qui manque chez Jean Monod, c'est une régularité au tir concrètement où ça arrive souvent.
Elle l'avait en début de saison.
Ouais, et là elle a un peu perdu sur les dernières. Il y a toujours une ou deux erreurs qui traînent et qui l'empêchent de faire. Enfin, même si son ski est impressionnant vraiment, ça son irrégularité au tir l'empêche de revenir à chaque fois sur Francis Caprois.
Il y a une autre donnée qui pour moi va être importante, c'est le fartage des skis allemands, parce que ce week-end, il faut le dire, Preuss n'était pas dans son week-end, mais les Allemands non plus, parce que les skis n'étaient pas bons. Ouais. En biathlon, les ingénieurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, jouent un rôle crucial, mais dans biathlon, en ski en général, hein, un rôle crucial, et depuis quelques week-ends, les skis allemands sont irréguliers, on va dire, et ce week-end c'était pas du tout le cas, donc pas du tout bon pour les Allemands, donc si ce serait bien pour nous que les ingénieurs allemands arrivent pas à recoucher le tir pour les prochaines semaines. Il reste 2 week-ends et 36 points, je disais, d'écart entre les deux, donc 36 points c'est pas grand chose, hein. Une première place pour Lou Jamono, une cinquième pour Preuss, et ça doit faire à peu près les 36 points d'écart, donc il reste des courses. Maintenant, à elle d'écrire son histoire pour la fin de saison. On va passer en handball et Paris fait plier Nantes. Le PSG a dominé son rival 34-28 dans un duel décisif pour la première place du championnat. Nantes devra désormais espérer un faux pas parisien pour reprendre la tête. Les Nantais qui avaient réussi bien face au PSG ces dernières années, mais qui là prennent un petit coup au moral, hein, parce qu'ils étaient leaders depuis un bon petit moment. Ils passent deuxième à un point du PSG.
Il reste combien de journées?
J'ai plus le nombre en tête, il doit rester, je vais te le dire, on a le temps, ouais. On va aller chercher ça. Hop, Paris Saint-Germain Football, c'est pas bon.
C'est pas le championnat.
Alors, ça fait 32 matchs. On a dit, il reste 13 matchs, mais
La saison est longue.
Mais Paris, c'est très fort et ça perd très peu depuis le début de l'année. Une défaite, un nul, et la défaite, c'était contre Nantes. En phase aller.
Ouais.
Donc voilà, et Nantes justement n'a pas de match nul et a 2 défaites. Voilà, c'est les premières équipes gagnent beaucoup et perdent surtout très peu. Donc voilà, quand tu passes derrière, c'est compliqué de revenir. Mais Nantes, on va y croire jusqu'au bout. On va les supporter. C'est l'équipe du coin quand même.
Voilà, c'est l'équipe de la région.
Et on va passer à la belle histoire du week-end sur le Vendée Globe. C'est la dernière fois qu'on va en pouvoir en parler. On avait commencé à en parler en novembre, ouais. Rendez-vous compte. Denis Van Weinberg, j'essaye de bien le prononcer, je me lance des défis un peu comme Matteo la semaine dernière, qui est arrivé hors délai après 117 jours de course. Un finish non classé, mais ô combien symbolique pour ce marin qui a tout surmonté. Un vrai roman d'aventure, une leçon de persévérance et un accueil triomphal par la Fédération Française de la Loose pour un marin belge. Tout était écrit d'avance. Est-ce que tu peux... T'as suivi un peu cette histoire,
Fabien? Ouais, bah, j'ai suivi. C'est vrai que c'est quand même dommage d'arriver 24 heures en retard à une course de 4 mois. Mais bon, au moins, en soi, lui, dans sa tête, il pourra dire qu'il l'a fait, même si il finira pas sur classement en vérité. Mais ouais, c'est une belle histoire, c'est marrant, je trouve, de quand même d'accueillir ces marins là qui mine de rien ne sont pas nuls du tout, hein.
Il a pas le meilleur, il a un bateau qui est moins bon que le premier. Il a eu des avaries où il a vraiment pas eu de chance, et en plus sur la dernière semaine, parce qu'il devait arriver 4-5 jours plus tôt, à une semaine avant l'arrivée. Bah d'ailleurs, la Fédération Française de la Loose, pour ceux à qui ça parle, ils avaient réservé, c'est une espèce d'association de personnes qui fêtent les plus grandes défaites, et voilà, et donc ils étaient prévus de venir l'encourager, le féliciter à l'arrivée le dernier. Ils avaient pris leur Airbnb 5 jours en avance. C'est dire à quel point les derniers jours ont été mauvais pour Denis Van Weinberg. Je me relance le défi. Mais voilà, une belle... Et je pense qu'il se relancera dans un tour du monde.
Oui,
des chances. Et ça devrait attirer des sponsors, j'imagine. La belle petite histoire, le nom va parler. Finalement, terminer dernier, c'est peut-être pas la plus belle des choses. Ouais, c'est toi qui as passé plus de temps en mer.
Mieux vaut finir dernier que milieu de tableau. T'arrives un peu en même temps que tout le monde. T'as pas tes grands fumigènes à l'arrivée.
Voilà, on a eu la belle histoire du duel au début entre Charlie Dalin et le nom m'échappe, qui finit deuxième. Mais bon, passons. On a eu Violette d'Orange, la jeune fille qui a 23 ans, finit son tour du monde. Et voilà, la dernière belle histoire de ce Vendée Globe 2024-2025. Maintenant, ça a rendez-vous dans 4 ans. On sera peut-être encore sur Radio G, je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, c'était tout pour ce Vendée Globe. On avait parlé de la Ligue 1. Si on avait le temps, on a largement le temps pour la Ligue 1. Je vais juste donner tous les résultats et après on va revenir sur des matchs si t'as envie de revenir. On a Toulouse et Monaco qui sont quittés sur un match nul, un partout. Rennes qui a perdu à domicile contre le PSG 4-1. Lille qui s'est imposé contre Montpellier 1-0. Marseille à domicile a perdu 1-0 contre Lens. Brest s'est imposé à domicile 2-0 contre Angers. Nantes s'est incliné à domicile 1-0 contre Strasbourg. Le Havre et Saint-Etienne, Faustin en parlait tout à l'heure, se sont quittés sur un match nul un partout. Auxerre est allé s'imposer à Reims 2-0. Et en clôture de cette journée, Lyon s'est imposé 2-0 contre Nice. On va revenir sur quel match, Faustin? Est-ce que tu as déjà pu voir des matchs ce week-end?
Non, moi, c'est vrai que je ne peux pas trop regarder les matchs de Ligue 1. Faute de ne pas avoir d'abonnement et faute de temps aussi, j'avoue. Le week-end, j'ai des matchs. Et je regarde du biathlon, donc j'ai autre chose à faire. mais non, je sais pas, le match sur lequel je vais revenir, on va éviter d'aller à Marseille, je pense.
On peut éviter, on y reviendra la semaine prochaine avec certainement un sourire mitigé, mais.
Mais ouais, voilà, parce que évidemment, Amaury, tu es supporter marseillais. Non, on peut aller sur la victoire de Lyon, peut-être. Mm-hmm. Qui a fait la bonne affaire du week-end, je pense,
ouais,
pour se rapprocher.
Qui sauve un petit peu le week-end marseillais pour le coup,
oui.
Parce que Nice n'en revient pas et passe pas devant Marseille en ayant perdu contre Lyon.
C'est ça. Et au classement, ça fait que Lyon se rapproche et sécurise un peu sa septième place, sa sixième place, synonyme de place européenne, parce que la septième place sera sûrement elle aussi européenne si le PSG l'emporte. En Coupe de France. Donc ouais, je pense que c'est vraiment le match qui était important ce week-end. Et ouais, par contre, Nice fait la mauvaise opération de prendre 2-0 en plus. Mais ouais, bah Lyon en forme en ce moment, tout de même.
Et Lens, finalement, qui se permet encore de rêver de cette Europe, parce que s'ils perdaient ce week-end, ils auraient eu 7 points de retard sur cette 7e place et Strasbourg. Là, ils sont plus qu'à 4 points avec le nombre de journées qui restent. Tout est possible encore pour Lens, comme pour Brest, qui est aussi à 36 points.
Et Lens qui met fin à une série de 4 défaites d'affilée aussi.
Ouais, c'est pour ça que c'était important pour les Lensois. S'ils avaient pu se relancer la semaine prochaine, j'aurais été preneur. On avait notre rendez-vous habituel le jeudi pendant un moment cette année. On parlait NBA. On a eu plus de mal à le faire ces derniers temps. Peut-être qu'on reprendra un peu avant les playoffs. En tout cas, il nous reste 7 minutes pour parler NBA, Faustin. J'ai prévu plusieurs sujets. J'ai pas vraiment prévu de questions dessus. Je parle de la blessure de LeBron qui vient casser la dynamique, la lutte pour le MVP entre OKC et Denver, entre Shai et Jokic, les Cavs qui restent toujours au sommet avec 14 victoires de suite, la série est folle. Tu veux te lancer sur quoi?
Moi, je vais aller sur le duel de MVP.
Et ben, voilà, on est parti.
On a eu le back-to-back, là, les deux matchs à Oklahoma City, c'était ce week-end, c'était, il me semble, lundi soir et dimanche soir. Bah ouais, c'était, le principe du back-to-back, deux matchs défilés. Donc, ouais, où, premier match.
À des horaires où on pouvait regarder les matchs.
Ouais, en plus,
franchement, c'était magnifique.
18h30 le dimanche et c'était quelque chose comme minuit, je crois, pile, peut-être le lundi. Mais ouais, du coup, premier match, une domination de Shai Gilgeous-Alexander qui a mis 40 points tout pile, il me semble, et qui a montré que c'était lui le MVP de cette ligue et le patron de cette ligue qui finit la semaine ou le mois, non, la semaine à 40 points de moyenne, à rien que ça, 44 points de moyenne même. Voilà, c'est le joueur qui a fait cette saison le plus de matchs à 50 points, à 40 points et à 30 points. Donc c'est clairement le leader offensif de cette saison.
Et 31 points, 22 passes, c'est peut-être un leader offensif.
J'y viens. mais ouais, voilà, au second match, Nikola Jokic nous a encore sorti une masterclass.
C'était contre les Suns dans un match qui part en prolongation, ouais, exceptionnel, hein, 149-141.
Ouais. Mais voilà. Le 30-20-20, qui, j'en ai parlé avec des personnes en off, c'est pour moi l'une. Enfin, c'est facile, top 3 des plus grandes performances NBA all time. Et j'ai pas peur de le dire.
Il y a le 70-20 de Doncic.
Ouais, qui était vraiment pas mal, supplément buzzer. C'est surtout ça que j'ai eu le débat avec des amis.
Il y a du 80 points Kobe, alors c'est
juste. Ouais, mais c'est pas pareil.
C'est du point, ouais.
Pour moi, c'est vraiment plus dur. T'as beaucoup moins de joueurs qui vont pouvoir mettre un 30-20-20 comme ça que pouvoir scorer 80 points.
Je me demande si Westbrook avait pas fait un 20-20-20 une époque. Voilà. Ouais, ça me parle.
Ça, c'était quand il était encore, c'était l'année avant qu'il quitte OKC pour les Lakers. Pour moi, déjà là, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, waouh, mais c'est fou. Genre, c'est 20 points, 20 rebonds, 20 passes décisives, c'est un truc de ouf. T'es impliqué sur combien de points au total, tu vois. Et là, 30-20-20, il a encore battu des records. C'est une première, évidemment, dans l'histoire de la NBA. Et à ce moment-là, j'avais aucun doute de dire que Nikola Jokic allait finir MVP de cette saison.
C'était un match avant que le...
Voilà, ça. Après, il y a eu quand même, voir un contre un. C'était même s'il joue pas du tout le même poste, il se rend compte pas sur le terrain vraiment. Shai Gilgeous-Alexander a repris pas mal de points dans mon estime et dans le classement aussi.
Mais le match juste après, c'est Jokic qui l'a complètement dominé.
Voilà, c'est Jokic.
Parce qu'en fait, sur ces matchs-là, les deux équipes sont à 1-1 en termes de résultats. Et les deux joueurs, pour moi, sont à 1-1 parce que la deuxième performance de, alors si la première performance de Jokic, qui reste à frôler un triple double, hein, 24-13-9, il est à 2/10 à 3 points. Je l'ai trouvé trop, moi, c'est le match que j'ai pu voir, je l'ai trouvé trop loin du panier.
Oui.
Alors, il tourne à plus de 40% cette année, c'est très beau. Mais c'est pas là où on l'attend de trop non plus derrière la ligne. C'est on préfère à l'intérieur avec quand il est dos au jeu à pouvoir distribuer des caviars à tout le monde et à pouvoir avoir des moves au poste qui malgré son poids quand on voit son physique on n'imaginerait pas possible mais donc dans le deuxième match il a été beaucoup plus proche du panier. J'ai regardé tout à l'heure, je crois que c'est 2 tirs à 3 points seulement pris dans le match. Là on est sur un match à 15/20 au tir, 35 points, 18 rebonds, 8 passes, c'est une seule balle perdue. Ça, c'est hyper propre. Et pour le coup, et c'est sur ce match-là, c'est Shai qui a été un petit peu plus en retrait. 8/14 au tir, donc en soi, il n'y a pas de problème. Mais un volume de tir assez faible, finalement, pour Shai. Et seulement 23 points, entre guillemets seulement, parce qu'il nous habitue tellement à mieux.
Ouais, voilà. C'est clair. Donc,
je pense que le débat va pouvoir avoir lieu jusqu'à la fin de l'année entre Shai et...
Jusqu'à la fin de la saison À mon avis, pour l'instant, je mettrais plus de points du côté de Nikola Jokic pour finir MVP de cette saison.
Voilà, ça dépendra aussi de le bilan. Comment les gens vont inclure le bilan dans le vote?
Dans les deux cas, les bilans
41-23, 53-11. Les deux bilans sont très bons, mais il y en a un qui est exceptionnel. C'est là. C'est là la question. Est-ce que je te lance sur... Tiens, j'ai envie de te lancer sur un sujet. Je te prends une minute pour en parler. Les Pistons, surprise de l'année. Cinquième à l'Est. Et une série exceptionnelle qu'ils ont fait juste avant. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces Pistons qui étaient la blague de la NBA pendant plusieurs années.
C'était maintenant les Pistons sont remplacés par les Wizards, mais mais ouais, on a un Cade Cunningham qui est énorme, qui rentre dans les débats MVP, enfin à moindre mesure, qui rentre dans un top 10, on va dire cette saison. On a un effectif qui se développe. On voit que au final c'était pas un projet dans le vent, c'est un projet qui fonctionne. Fallait juste laisser le temps venir, fallait laisser Kylian Hayes partir. Je rigole évidemment.
Il a fait un beau petit passage au Nets en 10 jours, mais il n'a pas eu de contrat.
Ouais, je suis déçu qu'il n'ait pas eu son contrat.
Parce que son passage était bon.
Ouais, il mettait ses joues, tout ça. Mais bref, c'est un débat parallèle. Il ne fallait pas le drafter aussi haut. Bref. mais ouais, les Pistons sont impressionnants. Personne ne les attendait à ce niveau-là, à mon avis. Et ouais, voilà, tout simplement.
T'as tout dit. On va pouvoir terminer là-dessus.
Ouais, voilà, on va se laisser sur ces belles paroles, j'ai envie de dire, et on va vous souhaiter une bonne fin de soirée, des bons matchs de Ligue des Champions, et à la semaine prochaine.